de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ONU propose 15,2 millions de rupiahs pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. 18 immigrants illégaux ont été retrouvés morts dans un camion en Bulgarie. Le président Erdogan apprécie l'aide de l'Indonésie pour le tremblement de terre en Turquie. L'Indonésie est prête à augmenter ses exportations de produits de bois vers les États-Unis. L'Indonésie et la Corée du Sud commémorent 50 ans de relations diplomatiques. L'Indonésie a souligné que l'ASEAN jouait un rôle important dans la coopération régionale. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. L'Organisation des Nations Unies appelle à une demande de fonds de 1 milliard de dollars américains ou environ 15,2 billions de roupies des pays membres pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Les efforts de sauvetage sont toujours en cours en raison du nombre de morts en Turquie et en Syrie a dépassé les 41 000 personnes vendredi 17 février. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le fonds fournira une aide humanitaire pendant 3 mois à 5,2 millions de personnes. Guterres a confirmé que l'argent permettra aux organisations d'aide d'augmenter rapidement leur soutien vital, y compris dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la protection, de l'éducation, les eaux et le logement. 18 migrants ont été retrouvés morts dans un camion en Bulgarie, les pays des Balkans, vendredi 17 février, heure locale. Rapporté par l'AFP, le camion transportait 52 immigrés cachés sous des bûches et le camion a été retrouvé par des locaux habitants du village de Lokorsko, à environ 20 km au nord-est de la capitale Sofia. Selon les premières informations, ils sont morts asphyxiés. Pendant ce temps, le procureur général adjoint Borislav Sarafov a déclaré qu'il s'agissait de l'incident le plus meurtrier impliquant des immigrants en Bulgarie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que le président turc Recep Tayyip Erdogan a apprécié et remercié le gouvernement et le peuple indonésien pour leur aide dans la gestion du séisme de magnitude 7,8 qui a secoué le pays lundi 6 février. La ministre indonésienne Retno Marsudi au complexe du palais présidentiel Jakarta a déclaré vendredi que l'aide de l'Indonésie est la première aide apportée par un pays de la région de l'ASEAN pour gérer les tremblements de terre en Turquie et en Syrie. L'équipe indonésienne a également aidé plusieurs citoyens des pays de l'ASEAN qui ont été touchés par le tremblement de terre en Turquie et le gouvernement indonésien a également exploité un hôpital de campagne pour aider les victimes de tremblements de terre. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien et les acteurs économiques sont prêts à travailler ensemble pour accroître les exportations de produits bois et de leurs dérivés vers les États-Unis, qui sont encore largement ouvertes. Le directeur général pour l'Amérique et l'Europe du ministère des Affaires étrangères, M. Umar Hadi, en sa déclaration à Jakarta samedi, a déclaré que divers défis existants seront recherchés une solution commune afin que la part de marché des produits de bois indonésiens aux États-Unis continue d'augmenter. Umar Hadi espère qu'à l'avenir, il y aura de grandes opportunités d'explorer des partenariats entre les acteurs commerciaux potentiels des deux pays. Pendant ce temps, l'ambassadeur indonésien aux États-Unis, Rosan P. Ruslani, a déclaré que les producteurs indonésiens de produits en bois devaient travailler sérieusement sur le marché américain en raison de la demande de produits en bois indonésiens aux États-Unis continue de croître, soutenu par les produits ameublement pour les besoins du logement et du bureau. L'Indonésie et la Corée du Sud célèbrent 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Pour commémorer cela, l'ambassade d'Indonésie à Séoul présentera divers événements ayant des échanges culturels et des ateliers. L'ambassadeur indonésien en Corée du Sud, M. Gandhi Sulistianto, en ligne depuis Séoul vendredi 17 février, a déclaré que les gouvernements des deux pays ont convenu de collaborer à cette commémoration. Et selon l'ambassadeur Gandhi Sulistianto, les deux pays ne sont pas uniquement concentrés sur la coopération entre gouvernement et secteur privé, mais aussi les relations intercommunautaires pour développer des amitiés plus étroites. L'ambassadeur indonésien en Corée du Sud, Gandhi Sulistianto, a déclaré que l'ASEAN jouait un rôle important et avait un impact positif sur la coopération régionale, entre autres de former une architecture sanitaire régionale telle que la coopération en matière de vaccins. L'ambassadeur Gandhi Sulistianto, lors d'une conférence de presse à Séoul vendredi, a déclaré que l'ASEAN, présidée par l'Indonésie, se concentrerait sur le renforcement de la sécurité alimentaire, assurer des chaînes d'approvisionnement solides et faciliter le commerce. Selon lui, l'Indonésie invitera d'autres pays de l'ASEAN à renforcer la stabilité financière pour assurer la résilience économique face aux perturbations externes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Bangka Belitung, la fête traditionnelle de Murok Jerami dans la région de Bangka Central, dans la province des îles de Bangka Belitung, est enregistrée en tant que patrimoine culturel qui a été archivé au Centre des données nationales sur la propriété intellectuelle communale indonésienne. Le régent de Bangka Central, M. Algari Rahman, à Bangka Belitung, Pekanbaru, a déclaré mercredi que le statut du patrimoine culturel était un déclencheur et de l'enthousiasme des populations locales pour préserver la culture et la sagesse locale. Murok Jerami est une cérémonie traditionnelle de récolte du riz impliquant le peuple indigène de la tribu Mangkano Urang Namang et une expression de la gratitude du peuple envers le Créateur pour l'abondance des rendements de riz. Le régent espère que l'établissement de Murok Jerami en tant que propriété intellectuelle communale pourra devenir un atout culturel de grande valeur pour faire progresser l'économie régionale. Les nouvelles suivantes sont venues de Ambon. Le gouvernement municipal de Vlissingen aux Pays-Bas et la ville d'Ambon envisagent une coopération dans le cadre du programme d'école sœur dans le prolongement de la coopération entre les villes sœurs qui existaient jusqu'à présent. Le maire de Vlissingen, Bavan de Tiar, a visité SMPN 4 Ambon jeudi. Le chef du bureau de l'éducation de la ville d'Ambon, M. Ferdinand Tasso, a déclaré que le maire de Vlissingen et son équipe ont visité trois écoles à Ambon qui étaient des représentants d'écoles de pilotage et avaient des programmes différents. L'école de pilotage à Ambon serait une étude et reproduite par le gouvernement de Vlissingen et si le programme mis en offre était quelque chose de plus et de différent. Les dernières nouvelles sont venues de Surabaya dans l'est de Java. L'association des anciens élèves de l'Institut de technologie 10 novembre a créé un navire respectueux de l'environnement pour soutenir les établissements de santé publique dans les régions éloignées. Le navire a été nommé navire de santé publique. Le directeur général du projet de navire de santé publique, M. Hari Supriyadi à Surabaya, a déclaré jeudi que le navire était utile en tant que fournisseur d'installations de santé publique autour des rivières dans les régions d'Indonésie. Ce navire fournit un certain nombre d'établissements de santé, deux chambres de patients, les tableaux de médecins et d'infirmières, les équipements de diagnostic, y compris les équipements pour les chirurgies mineures. Et chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles d'Indonésie. Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 18 février. Le 18 février 1931, le Japon établit l'état fantoche de Manchukuo dans le nord-est de la Chine. À partir de 1931, lorsque la région de Mandchourie a été attaqué et contrôlé avec succès par les Japonais. Un an plus tard, un gouvernement pro-japonais est établi dans la région, indépendant de la Chine avec Puyi, le dernier empereur Qing, à la fois régent et empereur. La création de l'état de Manchukuo ou Mandchourie vise à rendre le Japon plus sûr, libre et de se déplacer en Chine continentale. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, en août 1945, la région de Mandchourie a été contrôlée avec succès par l'Union soviétique. L'année suivante, l'Union soviétique rendit la Mandchourie à la Chine. Le 18 février 1943, le ministre de la propagande Hitler, Paul Joseph Goebbels, a déclaré une guerre de propagande totale. En tant que propagandiste, Goebbels était largement respecté par les scientifiques. Il est considéré comme le pionnier et le développeur des techniques modernes de propagande. La technique consistant à raconter les résultats de son expertise s'appelle la technique du Big Lie. En utilisant des livres, des images, des films et une radio à ondes courtes pouvant atteindre différentes parties du monde, Joseph Goebbels a diffusé la doctrine nazie. Même le 18 février 1943, il a déclaré la guerre de propagande totale afin de remonter le moral de l'armée allemande sur le champ de bataille. Il est devenu la troisième personne la plus populaire en Allemagne après le Führer, à savoir Hitler et Martin Bormann. Le 18 février 2005, des journalistes de Metro TV pris en otage en Irak. Deux journalistes de la télévision privée indonésienne, c'est Metro TV, qui s'appelle Mutia Hafid et le caméraman Budianto, ont été enlevés et pris en otage le 18 février 2005 par un groupe d'hommes armés. L'enlèvement s'est produit alors qu'ils étaient en service en Irak. À cette époque, le dernier contact de Metro TV avec Mutia Hafid au 15 février. Après avoir négocié avec le preneur d'otages, avec l'aide des forces de sécurité locales, le ministère des Affaires étrangères et Metro TV, Hafid et Budianto ont finalement été libérés le 21 février 2005. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Terasa selamanya akan
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée 217 billions de roupies sont nécessaires pour le projet de batterie électrique fabriquée en Indonésie. La Société indonésienne de batteries, ou IBC, a besoin d'un budget pouvant atteindre 217 billions de roupies pour développer des batteries électriques fabriquées en Indonésie. Le président directeur de la Société indonésienne de batteries, M. Toto Nugroho, lors de la réunion de travail de la Commission 6 du Parlement de la République d'Indonésie, mercredi 15 février, a déclaré que pour répondre aux exigences budgétaires, l'Indonésie a collaboré avec le plus grand fabricant mondial de batteries de véhicules électriques, contemporain Amperex Technology Co. Ltd. et LG Energy Solutions Ltd. pour le développement de batteries. De l'exigence d'investissement de 217 billions de roupies pour développer des batteries électriques, au moins 200 billions de roupies peuvent être obtenus grâce à l'investissement des deux plus grands fabricants de batteries de véhicules électriques au monde. Selon Toto Nugroho, bien qu'il nécessite des plus grands fonds, il sera proportionnel à la valeur ajoutée reçue par l'Indonésie. Selon lui, en fait, cela pourrait atteindre 11 fois la valeur des exportations nationales de nickel. En plus de nécessiter des grands fonds, le temps nécessaire pour développer l'industrie des batteries de véhicules électriques est également assez long. Il faudra au moins 4 ans pour pouvoir sortir des batteries électriques fabriquées en Indonésie. Toto Nugroho a ajouté que même si les entreprises indonésiennes se sont associées à des fabricants de batteries électriques dans le monde, il faut près de 4 ans pour obtenir des cellules de batterie à partir de nickel indonésien. Il a ajouté que le processus de développement de l'industrie des batteries électriques dans le pays devrait être conforme à l'augmentation du nombre d'utilisateurs de véhicules électriques. Au moins, dans la prochaine décennie, les utilisateurs peuvent augmenter fortement. IBC vise à augmenter le nombre d'utilisateurs de motos électriques à 12 millions et celui des utilisateurs de voitures électriques à 1 million en 2035. Ceci est conforme à l'accord de la Société indonésienne de batteries, ou IBC, avec le ministère de l'Industrie par l'agrément numéro 6 du ministre de l'Industrie de 2022. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu. Perhatianmu yang buatku, oh, ingin ku memilikimu. Meski kau telah dimilikinya,
meski kau tak dimilikinya.
berikan cintamu. Kau selalu ada untukku, izinkan ku untuk memilikimu. Oh, izinkan ku dekat denganmu, tak ingin engkau dengannya. Ku akan oh menunggu, oh sampai kau menjadi milikku.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la cascade Umbul Songo dans la province de Java Central. Umbul Songo Kopeng est située dans le complexe de Kopeng Wana, dans le village de Kopeng, sous-district de Getasan Semarang, Java Central, est un site touristique naturel qui convient aux amoureux de la nature qui aiment l'aventure. Cette cascade, flanquée du mont Telomoyo, Andong et du mont Merbabu, se trouve à 54 km de la ville de Semarang et à 23 km de la ville de Magelang. La cascade située à une altitude de 1450 mètres au-dessus du niveau de la mer possède un air frais de montagne et une beauté naturelle extraordinaire. Pour aller à la cascade d'Umbul Songo, il n'y a pas encore de bonne route. Donc, pour les personnes qui ont un passe-temps d'aventure, bien sûr quelque chose de très difficile et d'épuisant adrénaline. Lors d'un voyage fatigant de 30 minutes à la cascade d'Umbul Songo, vous verrez différents types de plantes et différents types d'oiseaux. La cascade est saisonnière, ce qui signifie qu'elle coulera abondamment lorsque la saison des pluies arrivera et vice-versa. Pour pouvoir ressentir toute l'excitation à la cascade d'Umbul Songo, vous pouvez explorer à 5h jusqu'à 19h, heure de l'ouest de l'Indonésie. Si vous voulez voir la cascade rapide, vous pouvez la visiter pendant la saison des pluies. L'une des choses à ne pas manquer lors d'un voyage à la cascade Umbul Songo est de prendre des selfies. Un paysage naturel vert peut être utilisé comme l'arrière-plan pour produire de belles photos. Si vous voulez profiter au maximum de la cascade, vous pouvez visiter pendant la saison des pluies, mais bien sûr, une journée ensoleillée avec un temps clément est le meilleur moment pour voyager à l'air libre. Chers amis, c'était le magazine culturel intitulé La cascade Umbul Songo à Kopeng, Java Central. Merci à tous, à bientôt.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Indonésia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia.
sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter une étudiante du lycée 5 Surabaya a remporté la première place au concours scientifique de Taïwan. Une réalisation fière d'une étudiante indonésienne est venue de l'est de Java. Une étudiante du lycée 5 Surabaya qui s'appelle Natania a réussi à obtenir la première place dans un événement international à Taïwan. Ce concours est le Salon international des sciences de Taïwan 2023, où le domaine qu'il a remporté était la médecine et les sciences de la santé. Ce concours s'est tenu hors ligne au Centre national d'éducation scientifique de Taïwan du 5 au 11 février 2022, avec un total de 22 pays participants envoyant leurs meilleurs étudiants afin qu'ils puissent concourir pour donner les meilleurs résultats. Lors de cet événement, Natania a battu des étudiants exceptionnels de divers pays tels que les États-Unis, la Suisse, le Mexique, le Brésil, l'Italie, la République tchèque, l'Afrique du Sud, la Turquie, le Luxembourg et d'autres pays. Avant de participer au concours du Salon international des sciences de Taïwan 2023, elle avait participé au sommet de l'ASEAN sur l'innovation dans la recherche des jeunes en 2022. À cette époque, elle faisait des recherches sur moringa argentée à base d'extrait de moringa qui espérait-elle pourrait traiter la typhoïde de la bactérie salmonelle. En conséquence, le sommet de l'ASEAN sur l'innovation dans la recherche des jeunes 2022, elle a réussi à remporter une médaille d'argent ou une deuxième place. Après avoir reçu le prix, elle est optimiste pour participer au Salon international des sciences de Taïwan 2022, je voudrais dire 2023 à Taïwan, et développer davantage ses recherches. Après ses recherches, elle s'avère que l'extrait de moringa peut également être utile pour traiter le SARM, une bactérie pathogène classée comme très mortelle. Cette bactérie existe de l'utilisation d'un trop grand nombre d'antibiotiques dans la salle de soins intensifs. Sa recherche a réussi à être le meilleur au Salon international des sciences de Taïwan 2023. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Seakan yang pertama kali.
Dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Masih Belum Lupa, chantée par Annette Delicia Nasution featuring Fei Fien. La chanson « Masih Belum Lupa » est une chanson composée par Ade Govinda, sortie le 7 avril 2022. Cette chanson a été écrite par Ade, basée sur une expérience réelle, sur des sentiments qu'il est encore très difficile d'oublier d'un cœur brisé, même si cet incident est passé. Bon, chers auditeurs, voici Annette Delicia Nasution avec Fei Fien dont le titre est « Masih Belum Lupa ». Bonne écoute.
Sejarah sekali.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali permusuhan ataupun persaingan. Sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang. Berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.